Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, suite et fin dans Escale de notre conversation avec un invité exceptionnel, Robert Kaminker, ancien fonctionnaire international, qui a été l'un des tout premiers employés de l'ONU en janvier 1946, lors de la création de l'Organisation mondiale. Il n'avait alors que 18 ans. Robert Kaminker, qui dans cette seconde partie, commence par évoquer la vie quotidienne aux Nations Unies en pleine guerre froide.
Petit à petit, le secrétariat s'est étoffé, d'abord par le nombre de pays, puisqu'il y a eu des admissions de nouveaux pays tous les ans pratiquement à ce moment-là, mais il y avait aussi le fait du recrutement des gens. Il y avait différentes catégories de recrutement, pas de la volonté des Nations Unies, mais de la volonté des pays. Par exemple, on ne pouvait recruter personne de l'autre côté du rideau de fer sans que la personne soit présentée par son gouvernement et généralement sur un petit contrat de 5 ans. Alors que nous autres, les tout premiers, je sais que ce n'est plus la même chose maintenant, mais les tout premiers, nous avions des contrats permanents. Ça ne les empêchait pas, par exemple, de venir à des réunions avec nous, et de travailler, de faire du travail sur différents cas, des cas qui n'étaient pas forcément politiques, qui étaient des cas d'administration, qui étaient des cas de traduction. Ça ne les empêchait pas de travailler avec nous. Mais s'il y avait une décision un peu difficile à prendre, surtout en termes d'administration du personnel, il y avait généralement, au moment où on aurait dû aboutir à une décision, il y avait une voix qui se levait qui demandait un ajournement jusqu'au lendemain. Et c'était généralement une voix de l'autre côté du rideau de fer, là, du mur de Berlin. Et cette voix, c'était pour aller consulter le gouvernement, ce qui est contre le serment que nous avions fait en entrant aux Nations Unies.
Votre carrière s'est clairement déroulée pendant la fameuse guerre froide, donc vous parliez du rideau de fer.
Absolument.
Donc c'était une ambiance très particulière et c'était au-delà des recrutements, au-delà de certaines contraintes de travail, quand même des relations très particulières avec certains représentants de pays. Ou est-ce que le fait d'être dans la même administration crée des liens et également avec les langues permettait des relations beaucoup plus soutenues?
Absolument, nous avions des liens qui outrepassaient toutes les questions politiques, même personnelles. Nous avions des liens les uns avec les autres et nous essayions de travailler ensemble. D'ailleurs, quelque chose qui était très curieux, c'est que même à l'intérieur des Nations Unies, à l'intérieur du secrétariat, les informations passaient mal. Et s'il n'y avait pas eu le New York Times le matin, on n'aurait pas su vraiment ce qui se passait.
Alors si ma mémoire et mes calculs sont corrects, vous avez connu 5 secrétaires généraux ?
J'ai connu Paul-Henri Spaak, j'ai connu Hammarskjöld. Après Hammarskjöld, il y a eu...
Utant,
que j'ai bien connu parce qu'à l'époque, j'étais déplacé à Santiago du Chili. Et il est venu plusieurs fois. Après Utant, il y a eu Pérez de Cuellar.
Valdheim.
Il y a eu Valdheim, il y a eu Pérez de Cuellar, il y a eu Boutros-Ghali.
Mais vous avez connu jusqu'à Pérez de Cuellar.
J'ai connu jusqu'à Pérez de Cuellar.
On a coutume de dire qu'autrefois, il y avait des personnalités, il y avait des secrétaires généraux très forts. Et en même temps, il y avait ce contexte un peu particulier de la guerre froide, de ces rapports de force quand même qui étaient assez importants.
Mais tout ce que vous dites est vrai, mais c'est quelque chose que l'on savait par les journaux. À l'intérieur du secrétariat, peu de choses de ce goût-là filtraient.
Il n'y avait pas de communication interne.
Il n'y avait pas de cette communication-là interne et je pense que ça n'intéressait pas les gens. Ce n'était pas ça qui était intéressant. C'était quelque chose qui leur appartenait à eux, au 38e étage et dans les quelques étages supérieurs. Ça n'avait pas une énorme influence sur les gens. Nous ne connaissions pas les secrétaires généraux. On ne les voyait pas. Le seul, si je me souviens bien, c'est Dag Hammarskjöld qui avait fait tous les bureaux et serrer la main à tous les fonctionnaires à chaque fois qu'il a été réélu. Les autres, je ne pense pas que ça soit passé comme ça. Alors, il venait aux assemblées du personnel, il venait le 24 octobre, il venait faire des discours, etc., parler.
L'autre idée aussi, c'est que quand même c'était des rapports très formels, très formalistes. Le code vestimentaire était beaucoup plus strict qu'aujourd'hui.
Ça, oui.
Costume-cravate.
Costume-cravate, il n'était pas question d'être autrement. Ce n'est pas du tout la même atmosphère, mais c'est aussi une condition non pas des Nations Unies, mais du monde entier.
On parlait des 5 secrétaires généraux, donc Waldheim, Pérez, Yutan et donc bien sûr Dag Hammarskjöld qui est mort dans des circonstances très particulières, des circonstances qui sont en train d'être revues actuellement.
Bah, c'est la énième fois qu'on les revoit, je crois. J'ai participé un tout petit peu parce que j'étais au Congo en 61, 62, 63. Et à un moment donné, après le crash, etc., il y a eu une enquête et une des choses qu'on essayait de déterminer, c'était l'heure exacte du crash. Et il y a eu un témoignage qui est venu d'un paysan de la Rhodésie du Sud, comme ça s'appelait à l'époque, qui a dit « Moi, j'écoutais tel programme à la radio Brazzaville, tel jour, à tel moment. » Alors moi, on m'a envoyé de ce qui s'appelait à l'époque Léopoldville, Kinshasa d'aujourd'hui, on m'a envoyé à Brazzaville, qui est de l'autre côté de la rivière, pour essayer de repérer cette truc radio. Et je l'ai repéré, en effet, ça a été ma partie. Au Congo, nous étions persuadés qu'il n'y avait pas de gros mystère dans la mort de Hammarskjöld. L'avion qu'il avait pris était un avion affrété par l'ONU, des Scandinaves, je crois des Norvégiens, ou des Suédois. Et ce qu'on a toujours dit à ce moment-là, c'est que cet avion, le pilote avait un manuel, le manuel des atterrissages en Afrique. Et ce manuel donnait pour Ndolo, là où il devait atterrir, donnait une certaine altitude. Alors le pilote se base sur cette altitude pour régler tous ses instruments, etc., et atterrir sur la piste et la retrouver. Il avait fait d'ailleurs à Ndolo, l'avion avait fait un grand cercle, comme ça se fait souvent dans les petits aéroports africains, pour bien repérer l'endroit. Or, il se trouve que l'ancien aéroport de Kinshasa, de Léopoldville, s'appelait Ndola, avec un A au lieu d'un O. Et que Ndola a une altitude beaucoup plus élevée que Ndolo. Et que c'est pour ça que l'avion s'est crashé, parce qu'il a réglé ses instruments sur Ndola au lieu de sur Ndolo. Ça, c'est la version qui existait à l'époque. Et moi, personnellement, c'est celle qui me plaît le plus, si je puis dire. Tout en n'ayant aucun autre rôle dans l'enquête que ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Mais la mort de secrétaire général en exercice dans un accident de façon si dramatique, ça a quand même dû marquer les esprits.
Ça a marqué énormément tous les esprits.
Et comment les gens ont réagi? Comment vous avez, à l'époque?
Nous l'avons déploré parce qu'on savait qu'il avait maintenu l'ONU dans le droit chemin, malgré les énormes disputes et les énormes effets contraires provenant de l'Union soviétique. Et de ce groupe-là. Et on savait qu'il avait maintenu, qu'il avait tenu tête, alors que je pense qu'on pourrait dire beaucoup d'autres secrétaires généraux, j'espère que je ne vais pas me faire couper ma pension en disant ça, mais on pourrait dire de beaucoup d'autres secrétaires généraux qui n'ont pas toujours résisté à des pressions de certains gouvernements.
Par la suite, donc, on passe rapidement, mais donc vous avez aussi travaillé du temps de Kurt Waldheim.
Oui.
Et donc, on parlait quelques années sous, entre guillemets, Pérez des Couélard. Comment vous avez terminé votre carrière à l'ONU? Vous êtes parti quand même de très bas, il faut le reconnaître.
Je suis parti de tout en bas.
De tout en bas. Vous avez gravi les échelons, comme on dit.
J'ai gravi, je suis tout de même arrivé à P5.
À P5, d'accord. Et cette fonction, c'était quelle responsabilité vous aviez?
En dernier, j'avais la responsabilité de ce magazine que publiait le département d'information à Genève, et qui s'appelait le Forum du développement. Alors, il avait deux éditions. Il avait une édition éditorialiste qui essayait de prendre différents points de vue, surtout sur les questions de développement et d'économie dans le monde. Et il avait une autre version qui donnait tous les contrats et l'avancement de tous ces contrats qui étaient passés grâce aux fonds donnés par les différentes banques de développement, la Banque mondiale, la Banque d'Asie et Pacifique, etc., toutes les différentes banques, et le PNUD. Alors, à l'époque, c'était pour contrer un tout petit peu l'avantage qui était venu naturellement, semble-t-il, aux Américains, qui, connaissant mieux que les autres les différents contrats, etc., avait repris toute cette histoire-là et les firmes qui gagnaient les contrats étaient très très souvent des firmes américaines. Or, les Nations Unies avaient eu l'idée qu'il fallait répartir les contrats un peu partout, donc il fallait un instrument, un magazine, une liste, quelque chose qui aille partout. Et c'est ce qui a été fait à ce moment-là et qui est fini par mourir de sa belle mort, non pas parce que c'était inutile, mais parce qu'elle a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus efficace, c'est-à-dire l'Internet.
Les dernières années, donc, vous disiez, vous les avez passées à Genève. Donc,
je les ai passées à Genève.
Combien d'années à Genève ?
4 ans. Les 4 dernières années à Genève, de 78 à 82.
C'était quoi, le souci de voir autre chose, de se rapprocher de l'Europe ?
Non, on m'a demandé d'y aller pour administrer ce projet particulier.
Tout à l'heure, vous nous avez, avec un trait d'humour, dit qu'en fait, l'ONU, c'était plus par atavisme que par vocation. Pour autant, vous avez pris une retraite, on le dit, anticipée. Et malgré tout, des décennies après et suivant l'ONU, vous avez continué à promouvoir, à faire la communication de l'ONU à travers la société civile.
J'y crois à l'ONU. Je crois que c'est la seule façon que le monde arrivera à s'en sortir, vu les dangers qui sont tout autour de nous, sur lesquels on travaille, mais on travaille peut-être pas assez ou peut-être mal, et où il y a des graves inconvénients de la part de certains pays, de certains dirigeants. Je n'entre pas plus là-dedans, mais moi j'y crois, je continue, et je pense par exemple que le département de l'information n'a pas assez d'argent, n'a jamais eu assez d'argent dans la répartition de l'argent pour les fonctions des Nations Unies, pour vraiment atteindre le public. Je sais qu'aux États-Unis, puisque j'y ai vécu et que j'y viens relativement souvent, je sais qu'on est plus au courant aux États-Unis que dans beaucoup d'autres pays de ce qui se passe. Je sais qu'aux États-Unis, et en particulier à New York et dans certaines régions, on peut attraper tous les programmes de l'ONU, etc. En France, cela ne se fait pas. Les journaux et les médias en général ne disent que les choses qui attirent l'attention ou qui sont un peu mortelles ou un peu dangereuses, etc. Pour le reste, on ne sait pas. C'est pour ça que j'ai entrepris personnellement, dans une petite radio libre à laquelle je contribue, d'avoir un programme hebdomadaire essayant de décrire ce que fait l'ONU, d'une part, de donner des renseignements sur les actualités telles que je les reçois, comme n'importe qui pourrait le faire, par Internet, par le centre d'actualité de l'ONU. Et aussi, j'essaye d'expliquer ce que font toutes les institutions spécialisées, tous les autres organes des Nations Unies, pour que les gens se rendent compte que, finalement, il n'y a pas une entreprise humaine, de quelque nature ou de quelque taille qu'elle soit, qui ne tombe pas sous le coup des Nations Unies.
Quelle belle conclusion. On rappelle quand même donc la radio dans laquelle donc vous travaillez, dont vous êtes d'ailleurs aussi le trésorier.
Oui, alors ça c'est une petite radio libre, créée selon ce qui avait été créé en France en 81. Ça s'appelle Radio Libre en Périgord. C'est une radio qui a un rayon d'écoute de quelques 50 km, donc ce n'est pas énorme, mais ça comprend tout de même à peu près les 2/3 de la population de la Dordogne où j'habite en ce moment.
Alors pour les auditeurs, on donne donc l'adresse internet, c'est www.radiolibreenpérigord, donc au pluriel, .com. L'émission que vous animez, donc ça s'appelle « L'ONU vous concerne ».
Oui.
Et ça décrit bien ce que vous disiez, à savoir les actualités de l'ONU dont les médias ne parlent jamais. Mmh. Et ces actualités dont les médias ne parlent jamais, vous prenez vos sources où ?
Sur Internet, sur ce que je sais, sur un certain nombre de bouquins, de livres comme les Basic Facts des Nations Unies, etc. Tout un tas de choses que je peux me procurer à Genève facilement.
Et le centre d'actualité aussi.
Et le centre d'actualité, bien sûr, et j'espère pouvoir faire mieux.
Voilà, et c'est avec Robert Kamenker que se referme ce magazine Escale préparé, présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.